12h30, 13h,
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Bonjour Marlène, bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans cette édition de la mi-journée, une édition de la mi-journée très largement consacrée à la mobilisation des Gilets jaunes que nous prolongerons avec une édition spéciale de tout terrain jusqu'à 14h. Mobilisation qui a pris une tournure dramatique ce matin. Une manifestante est morte renversée par un automobiliste en Savoie. Nous serons sur place. Nous verrons aussi qu'il y a eu de nombreux incidents sur plusieurs points de blocage. Arras, c'est un piéton qui a été renversé. Le ministère de l'Intérieur parle sur toute la France de 16 décès légers. Nous serons à Fréjus avec une porte-parole des Gilets jaunes. Nous verrons avec le consultant Jean-Marc Jancovici de quoi témoigne ce mouvement qui est né d'une colère contre la hausse du prix des carburants. Ce sont en tout plus de 1000 rassemblements qui ont été recensés à travers toute la France avec 50 000 manifestants. Et nous verrons avec François Geffrier quelle forme a pris cette mobilisation. Édition de la mi-journée, je vous le disais, largement consacrée à cette mobilisation des Gilets jaunes. Et nous la prolongerons avec une spéciale tout-terrain entre 13h et 14h avec nos correspondants en région et nos invités.
Europe 1.
La mobilisation des Gilets jaunes a donc pris une tournure dramatique ce matin. Une manifestante est morte renversée par une voiture. Ça s'est passé en Savoie. On retrouve sur place à Pont de Beauvoisin Jean-Luc Boujon. Qu'est-ce que l'on sait, Jean-Luc, précisément des circonstances de ce drame ?
Eh bien, il s'est déroulé en tout début de matinée. Un groupe d'une quarantaine de gilets jaunes ont organisé un barrage filtrant, non déclaré en préfecture, mais comme beaucoup d'actions aujourd'hui. Barrage filtrant près d'une station-service, dans une zone commerciale. Ils obligeaient les conducteurs à faire un détour autour du rond-point pour accéder à cette station. Une femme est arrivée à bord de son 4x4. Elle a expliqué qu'elle emmenait son fils chez le médecin et qu'elle ne pouvait pas attendre. Et c'est là que les choses se sont envenimées et que le ton est monté, raconte Philippe, retraité de 64 ans, qui participait au blocage.
Ça s'est énervé, elle a accéléré, les gens ont commencé à se dire « Oh, tu vas pas passer !» Parce que puisqu'elle accélérait, les gens ont secoué de la voiture. Elle est passée en force, hein. Elle est passée en force sur cette dame, justement.
Elle lui a roulé dessus, quasiment.
J'ai vu la voiture se lever, moi. Les roues sont levées, hein. Elle est passée ouais. Dessous. Qui a commencé à accélérer, qui a commencé à taper, j'en sais rien, moi. Mais je veux dire, effectivement, quand on vous fonce dessus, vous faites quoi? Il y avait une ambulancière qui était avec nous, qui lui a donné les premiers soins, qui a dit « Oh là là, c'est mal barré, quoi. » Les secours sont arrivés, puis on a vite appris que c'était fini, quoi.
C'est terrible.
Carrément, oui. Donc cette femme, elle est revenue après avec son gosse dans les bras. Ouais. Je m'excuse. J'ai pas fait exprès, j'ai pas vu. Il y a eu un coup de panique, quoi.
Alors, on parle d'une accélération à une vitesse de 40 km/h. La conductrice est alors qu'il est en garde à vue à la gendarmerie de Pont-de-Beauvoisin. La victime, elle, est une retraitée de 63 ans qui s'était mobilisée aujourd'hui parce que, justement, elle n'arrivait pas avec sa seule retraite à joindre les deux bouts et était obligée de travailler à côté. C'était le message qu'elle voulait faire passer au gouvernement aujourd'hui, affirment ses collègues gilets jaunes, qui, malgré le drame, ont décidé de maintenir leur action. Ils continuent en ce moment même leur barrage filtrant parce que, disent-ils, le message de notre ras-de-bol et de notre colère doit arriver jusqu'au gouvernement.
Jean-Luc Boujon à Pont de Beauvoisin en Savoie. Je vous propose d'écouter maintenant le préfet de la Savoie que vient de joindre Victor Dolande.
J'avais appelé, comme cela a été fait par le ministère depuis plusieurs jours, au fait qu'il faut respecter des règles élémentaires en termes de sécurité. D'abord déclarer une manifestation, ce qui n'était pas le cas. Et ensuite, à partir de là, respecter des règles de sécurité, qui sont celles notamment du filtrage, ce qui permet de ne pas exposer des personnes à des risques conséquents. Nous n'avons pas affaire à des manifestants professionnels. Le principe est de négocier avec eux, de leur expliquer les choses, les règles. C'était ce qui se passait dans le secteur de Pont-de-Montvoisin, là où il y a eu l'accident. La gendarmerie était sur un point juste à côté, où il y avait un autre point de blocage, et passer de point en point comme ça.
Louis Longillet, le préfet de la Savoie. Alors, ce sont en tout 1087 rassemblements qui ont été répertoriés à travers toute la France. 50 000 manifestants. Chiffre communiqué dans la matinée par le ministère de l'Intérieur. Et Victor Dolande, sur plusieurs points de blocage, il y a eu des tensions avec de nombreux incidents.
Oui, le même scénario qu'à Pont-de-Beauvoisin s'est déroulé à Arras dans le Pas-de-Calais. Un automobiliste a forcé un barrage de gilets jaunes. Il a renversé un piéton qui a été rapidement transporté à l'hôpital. Dans un premier temps, l'homme de 71 ans était en urgence absolue. Selon les dernières informations, il aurait une fracture ouverte à la jambe. À Célestat, dans le Bas-Rhin, des échanges très tendus entre manifestants et automobilistes depuis ce matin. Une femme de 45 ans a été légèrement blessée au pied par une voiture qui tentait de faire demi-tour. À Hazebrouck, dans le Nord, un conducteur bloqué par des manifestants s'est impatienté et a lui aussi forcé le passage en montant sur le trottoir. Deux gilets jaunes ont été légèrement blessés et transportés à l'hôpital. Ambiance également très tendue dans le sud, entre Carcassonne et Narbonne. Une manifestante a été renversée et légèrement blessée. On recense aussi des blessés à Tarbes, en Meurthe-et-Moselle et dans l'Hérault. Au total, on compte pour le moment 16 blessés légers dans toute la France. À noter aussi qu'une seule intervention des forces de l'ordre s'est déroulée ce matin. Les CRS sont intervenus dans le tunnel du Mont-Blanc pour débloquer le passage.
Et Victor Delande avec donc, vous le disiez, 16 blessés légers recensés pour l'instant. Évidemment, cette mort tragique en Savoie ce matin, cette tournure tragique, c'est ce que redoutaient ou pouvaient redouter les autorités avec le caractère spontané du mouvement. Et alors que 1500 points de blocage étaient annoncés pour seulement une centaine de manifestations déclarées en préfecture. Nous partons maintenant à Vannes dans le Morbihan. On retrouve Pierre-Baptiste Vanzini. On va voir comment les Gilets jaunes ont réagi après ce drame ce matin en Savoie. Et ce que vous avez noté, Pierre-Baptiste, c'est que cela fait monter l'attention d'un cran sur les points de blocage.
Et oui Fabienne, après le décès de cette manifestante et alors qu'un membre des forces de l'ordre essaye de faire évacuer la voie express bloquée par des gilets jaunes à pied, la réaction est immédiate, dialogue de sourds.
C'est Macron qui l'a tué.
Et ici, tous le disent, ils ne sont pas là pour casser, ils sont pacifistes.
C'est déplorable, moi je ne suis pas là pour la casse, je veux pas qu'il y ait de feu, qu'il y ait de bagarre. On est pacifiste, on vient juste dire on en a ras-le-bol, on paye trop.
Il y a quelques frictions à certains barrages filtrants, Marianic en a fait les frais.
On s'est fait un peu bousculer avec une BMW noire. Ben, ça me choque qu'il y ait des gens qui comprennent pas le combat qu'on mène. C'est pas pour embêter les gens. C'est parce qu'on défend notre pouvoir d'achat. On ne peut plus vivre de nos jours. On peut plus vivre avec nos salaires.
Et tout à l'heure à La Nestère, près de Lorient, un manifestant a été légèrement blessé par un véhicule sur un barrage filtrant.
Pierre-Baptiste Vanzini à Vannes dans le Morbihan. Et puis je vous le rappelle, l'émission spéciale de Tout Terrain entre 13h et 14h sur la mobilisation de ces gilets jaunes. Nous serons avec moi en studio Robert Namias, grande voix d'Europe 1. Et nous ferons le tour de tous nos correspondants en région sur les principaux points de blocage.
Europe 1.
Dans un instant, on poursuit justement notre tour de France. Nous serons à Paris où les manifestants ont passé leur matinée à essayer d'éviter les forces de l'ordre.
Europe 1 en édition spéciale jusqu'à 14h avec vous Fabienne Lemoyle en raison de la mobilisation des gilets jaunes. Il est 12h39.
Et nous poursuivons notre point sur les différentes manifestations des gilets jaunes. À Paris, les manifestants ont cherché à éviter toute la matinée les forces de l'ordre. Romane Hoquet, vous êtes à leur côté et vous vous trouvez porte de Bercy.
Oui, c'est là que les motards en gilets jaunes se sont donné rendez-vous. Ils arrivent au compte-gouttes dispersés et peu connaissent en réalité la suite du programme. En fin de matinée, une opération escargot entre Porte de la Chapelle et Porte de Bercy a rassemblé une centaine de gilets jaunes. C'était une des opérations majeures mais qui n'a pas bloqué la circulation. C'est là que j'ai rencontré Amélie, venue de l'Oise pour manifester.
La situation actuellement avec 1 500 euros, on s'en sort pas en France, est-ce que c'est normal ? Non, je suis propriétaire et je m'en sors pas. À cause des taxes, des augmentations quotidiennes, de l'essence, du prix de ma baguette, de mon électricité, des impôts, tout augmente. Qu'est-ce que je dirais à Emmanuel Macron aujourd'hui ? Qui pense aux pauvres, parce que lui il est dans sa tour là, toute dorée là, en train de pas payer d'essence, il paye rien, on paye tout pour lui. À un moment donné, s'il avait notre vie, s'il se mettait à notre place, il serait peut-être là aujourd'hui. Voilà.
Alors la jeune femme avait décidé de venir à Paris justement pour peser dans le rassemblement, dit-elle. Mais elle est en réalité déçue par l'ampleur de la mobilisation après des semaines de préparation. Depuis ce matin, les gilets jaunes ont multiplié les tentatives de blocage autour du périphérique. Porte Maillot, Porte d'Auteuil, de Saint-Ouen, avec pas plus d'une quarantaine de gilets jaunes à chaque fois. Des manifestants d'ailleurs éparpillés et très vite interceptés par les forces de l'ordre déployées en nombre à chaque sortie du périphérique. Mais les gilets jaunes misent aussi beaucoup sur cet après-midi où un rassemblement est prévu en direction des Champs-Élysées.
Romane Hoquet, qu'on retrouvera bien sûr dans l'édition spéciale de Tout Terrain. Alors toute la question, c'était de savoir quelle forme allait prendre cette mobilisation du 17 novembre qui est partie d'une protestation contre la hausse du prix des carburants avant de rassembler une colère plus large contre les impôts ou encore la hausse de la CSG pour les retraités. François Geffrier du service économie d'Europe 1 nous a rejoint en studio. Bonjour François.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on peut dire ce midi de l'ampleur de la mobilisation ?
L'ampleur, c'est donc deux chiffres. chiffre, 50 000 personnes et 1000 rassemblements, chiffre donné par le ministre de l'Intérieur. Si on devait comparer à une manifestation classique, on ne serait pas vraiment dans le livre des records. Les manifestations, je vous donne un exemple récent, contre la loi Travail El Khomri au printemps 2016, avaient réuni jusqu'à 400 000 personnes. Mais justement, on n'est pas dans un mouvement classique et le chiffre qui est frappant, c'est celui du nombre de rassemblements. 1000 lieux en France où des citoyens se réunissent avec un gilet jaune. Alors, souvent, il n'y a qu'une trentaine de personnes. Parfois, ils sont beaucoup plus nombreux. Le plus gros point de convergence, c'est du côté de Caen. 800 personnes rassemblées. Donc, le pari de cette carte de France constellée de petits points jaunes, il est parfaitement réussi. Après, sur les blocages, on a entendu parler à l'instant du périphérique parisien. On lisait ces derniers jours des instructions très précises. Bloquer le périphérique parisien dès 7h. Aller sur les Champs-Élysées, marcher sur l'Élysée. Là, à l'heure où on se parle, les Champs-Élysées, ça circule parfaitement. Les personnes qui sont, les quelques dizaines de gilets jaunes, sont encadrées par des forces de l'ordre. Il y a des blocages tout de même du côté de Toulouse, par exemple. Barrage filtrant sur le périphérique, barrage filtrant près d'une zone commerciale d'Orthez, le rond-point du Tilloy à Reims, je vous donne comme ça des exemples. La circulation est difficile au péage de Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône, et en Indre-et-Loire, sur l'A10, du côté de Saint-Pierre-des-Corps, il y a une opération escargot. Le chiffre global à retenir sur ces blocages, c'est 200 km. 200 km de bouchons cumulés, selon le ministère de l'Intérieur, qui nous dit que ça n'est pas plus qu'un jour de semaine classique.
François Geffrier du service économie d'Europe 1. Nous reviendrons dans un instant avec nos deux invités, Jean-Marc Jancovici, consultant spécialiste de l'énergie, fondateur de Carbone 4, et Océane Lequeux, porte-parole des Gilets jaunes à Fréjus sur cette mobilisation. Et je vous le rappelle, nous consacrerons l'émission Tout Terrain entièrement à ce mouvement des Gilets jaunes. Mais pour l'instant, place au sport.
Le journal des sports.
Bonjour Christophe Lamar.
Bonjour Fabienne.
L'équipe de France a connu un atterrissage brutal hier soir à Rotterdam. L'équipe de France de football, bien sûr, première défaite depuis 8 mois pour les champions du monde.
Les Bleus s'inclinent 2-0 face aux Pays-Bas. Au-delà de la défaite, c'est le jeu et l'attitude des champions du monde qui interrogent. Il manquait hier soir un supplément d'âme à cette équipe totalement dominée. Sans un grand Hugo Lloris dans le but, le score aurait pu être très sévère. Et c'est un sélectionneur vexé et un peu pincé qui est apparu en conférence de presse. Didier Deschamps.
C'est une défaite, voilà, qui est logique. Voilà, ça fait mal. On s'était habitué depuis une bonne période à avoir de bons résultats et surtout des victoires. Bon, notre objectif, vous le savez, c'était d'assurer cette première place. Ça n'a pas été le cas. Donc maintenant, ça dépend plus de nous. On verra ce qui se passe lundi soir. Mais je tiens à féliciter cette équipe des Pays-Bas qui a livré un très grand match et qui a mis beaucoup de qualité dans tout ce qu'elle a fait.
Didier Deschamps au micro de Simon Rubin. La France qui n'est donc plus certaine de participer au Final Four de la Ligue des Nations. Il faudra pour cela que l'Allemagne batte les Pays-Bas lundi soir. Prochain match des Bleus, il sera amical celui-là. Ce sera mardi contre l'Uruguay. Et puis pendant ce temps, à Monaco, on tente de se rassurer et de rassurer les supporters. Le président Dmitri Ribolovlev ne vendra pas le club. Déclaration de son porte-parole au lendemain des propos tenus par le prince Albert de Monaco qui laissait entendre le contraire. Le milliardaire russe est mis en examen pour corruption et trafic d'influence dans le cadre d'un litige qui l'oppose à son ancien marchand d'art.
Du football au rugby, le 15 de France va enfin tenter de gagner contre l'Argentine ce soir à Lille.
Gagner pour éviter une sixième défaite consécutive, pas facile face à des Argentins qui seront les premiers adversaires de la France à la Coupe du Monde au Japon l'année prochaine. Tout cela semble loin, mais un revers plongerait cette équipe de France en pleine tourmente. L'ancien demi d'ouverture Frédéric Michalak réclame pourtant du temps. Soyons patients avec eux, Frédéric Michalak.
Il faut aussi ne pas les taper, pas taper sur les doigts dès qu'il se passe quelque chose. Je crois qu'il faut se dire, voilà, on construit. Il faut accepter de perdre pour gagner d'autres matchs. Mais je suis plutôt positif pour ce week-end, surtout qu'on sort du Stade de France un petit peu à Lille. Ça va leur permettre d'être sur une nouvelle énergie. Puis il faut qu'ils aillent chercher cette énergie au sein du public. Il y a du négatif forcément autour de nous, mais il y a aussi du positif. Il faut aller chercher le positif.
Frédéric Michalak au micro d'Axel May. France-Argentine, coup d'envoi à 21h05 à Lille. Un match à suivre en fil rouge dans l'émission Europe Sport présentée par Lionel Rousseau.
Un mot de tennis pour terminer.
Oui, le Masters à Londres. Deux demi-finales aujourd'hui. Roger Federer face à Alexander Zverev et Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, face à Kevin Anderson.
Merci beaucoup Christophe Lamar. Il nous reste à voir le temps de ce samedi et bonne nouvelle, le soleil persiste sur la moitié nord et l'Aquitaine, Valérie Darmon.
Beau temps effectivement depuis ce matin, Fabienne, et après la dissipation des brouillards sur les trois quarts de notre pays, c'est gris et pluvieux toujours entre Roussillon et Marseille. demain, soleil garanti du matin au soir, cette fois partout, sauf du sud de l'Aquitaine à l'Occitanie jusqu'en Provence et en Corse, avec un vent d'autant assez fort et de très fortes pluies, surtout sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Donc prudence si vous circulez demain sur ces régions. Les températures seront stationnaires, rien à signaler de ce côté-là, avant de baisser dès lundi. Et les maximales de cet après-midi oscilleront entre 7 à Belfort et 18 à Bordeaux.
Merci beaucoup Valérie Darmon. À suivre, le mouvement des Gilets jaunes qui a pris une tournure dramatique avec la mort d'une manifestante renversée par une voiture. C'était ce matin en Savoie. Nous serons avec une porte-parole des Gilets jaunes à Fréjus. Et puis, nous serons aussi avec le consultant Jean-Marc Jancovici. Nous verrons avec lui de quoi témoigne cette mobilisation.
Il est 12h49 et nous sommes en édition spéciale jusqu'à 14h sur Europe 1 avec vous Fabienne Lemoyle et vos invités.
Oui, deux invités aujourd'hui pour parler de cette mobilisation des Gilets jaunes. Nous l'avons vu au début de ce journal, une mobilisation qui a pris une tournure dramatique. Une manifestante qui est morte renversée par un automobiliste en Savoie. Premier invité de ce journal, Océane Lequeux, porte-parole des Gilets jaunes à Fréjus dans le Var. Bonjour. Océane Lequeux. À Fréjus dans le Var, visiblement nous avons un petit souci, vous êtes auprès de Frédéric Michel. On va rejoindre mon deuxième invité, Jean-Marc Jancovici, qui est avec nous, consultant spécialiste de l'énergie, fondateur de Carbone 4. Bonjour.
Bonjour.
Au-delà de la tournure dramatique, tragique, je le disais, qu'a pris cette mobilisation ce matin, ce que je voulais voir avec vous, Jean-Marc Jancovici, c'est de quoi témoigne cette colère qui est d'abord tournée contre la hausse du prix des carburants. Est-ce que vous la comprenez, cette colère ?
Alors, pour savoir exactement pourquoi les gens sont en colère, le mieux, c'est de leur demander.
Alors, on les a entendus dans le journal de la mi-journée. Il y a effectivement cette hausse du prix des carburants. Il y a effectivement aussi cette colère contre la CSG. Mais vous qui prenez la transition énergétique, justement, de quoi témoigne cette colère et qu'est-ce que ça pose comme problème ?
Alors, de quoi elle ne témoigne pas, c'est plutôt ça qui est intéressant à regarder. En fait, quand on regarde les chiffres, il y a quelque chose qui est très dérangeant dans ce qui s'est passé sur les 30 dernières années, c'est que la part du revenu des ménages, en moyenne, je dis bien en moyenne, consacrée aux achats d'énergie n'a à peu près jamais été aussi faible qu'aujourd'hui depuis 1970. Donc, une des choses qui est très perturbante quand on regarde la raison avancée de la manifestation, et je dis bien c'est très perturbant parce que je ne mets pas en cause le fait qu'il y ait des gens qui soient vraiment dans la détresse, c'est qu'en moyenne, on paye pas plus cher aujourd'hui notre énergie globalement, carburant, gaz et électricité, que sur les décennies qui viennent de s'écouler. Après, ce à quoi les gens sont sensibles, c'est aux variations de prix. Alors là, effectivement, il y a eu une variation de prix récemment, mais cette variation de prix, elle est pour l'essentiel le reflet de la hausse du prix du baril. Vous savez que la France ne produit pas son pétrole, on est obligé de l'importer, et on l'importe au prix dit du marché. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui offrent le pétrole parce qu'ils l'ont sorti de terre, et puis il y a des gens qui veulent l'acheter, et s'il y a un peu plus de gens qui veulent l'acheter et un peu moins de gens qui sortent du pétrole de terre, eh bien le prix monte. Et c'est ce qui s'est passé depuis quelques années. C'est aussi ce qui s'était passé entre 2005 et 2008. Et en ce moment, la hausse va se poursuivre vraisemblablement exactement pour les mêmes raisons.
Et justement, cette colère risque de se poursuivre.
Oui,
avec en plus une hausse des taxes par rapport justement au basculement vers un autre mode de déplacement à partir de janvier.
Oui. Alors, là où on peut quand même jeter une pierre dans le jardin de beaucoup de gens, c'est sur ce que nous n'avons pas fait. Du côté des pouvoirs publics, on n'a pas fait ce qu'on a dit qu'on ferait. C'est-à-dire que nous avons signé la convention sur le changement climatique en 1992 à Rio. Bon, là, on a dit qu'il va falloir s'occuper sérieusement de la question du climat. Il se trouve qu'en France, les deux tiers de nos émissions de CO2 sont dues au pétrole. D'accord ? Donc on aime beaucoup sur les antennes s'empailler sur nucléaire versus éolien en ce qui concerne l'énergie. Malheureusement, c'est à côté du problème en ce qui concerne le CO2. Le problème n'est pas là en ce qui concerne le CO2. Le problème, il est essentiellement dans le pétrole et ensuite dans le gaz. Donc les problèmes de transition énergétique que nous avons dans notre pays, ça concerne la mobilité, ça concerne le chauffage, ça concerne l'industrie, ça ne concerne pas la production électrique.
Bon. Mais ça concerne, comme vous disiez, la mobilité et on se déplace de plus en plus et on est de plus en plus loin, justement.
Alors,
parfois, de son travail et de son domicile.
Non, on ne se déplace pas de plus en plus, mais on se déplace différemment. Il y a effectivement un phénomène d'étalement urbain. Alors là, l'État n'a pas fait sa part en ne le limitant pas, mais les ménages n'ont pas fait leur part non plus parce qu'ils revendiquent d'avoir le droit de construire. Les gens disent bah, « je veux me loger, donc je me loge là où il y a de la place, donc je revendique de vouloir construire là où il y a de la place. Là où il y a de la place, c'est de plus en plus loin des centres. » Et après, donc le mouvement, il y a une forme de responsabilité partagée, puis après on se dit ah, « bah, tiens, il faut beaucoup de voitures pour se déplacer dans ce genre d'endroit, et à un moment, ça devient plus difficile. » Donc il y a un défaut de planification de la part de l'État.
Et c'est quoi la solution? Puisque là, on voit cette colère qui monte. On a vu que le gouvernement a apporté des réponses en maintenant cette hausse à partir du mois de janvier, qui va donc de facto produire une augmentation du prix du carburant, mais en le compensant avec une prime qui permettrait justement d'avoir des voitures moins polluées pour les ménages modestes. Est-ce que c'est ça la solution?
Oui, mais c'est quelque chose qui est... c'est un processus d'adaptation lent. Donc ça fait, je le redis, ça fait 20 ans qu'on dit qu'il va falloir s'occuper d'énergie et ça fait 20 ans qu'on s'occupe d'autre chose que des problèmes qu'on a vraiment. Donc de corriger cette situation, ça va prendre du temps. C'est pas quelque chose qui va pouvoir se faire rapidement. Il y a dans les propositions qu'on soutient au Shift Project, donc l'association qui milite pour la décarbonation de l'économie, ce qu'on dit, c'est que quand on regarde les postes de consommation de pétrole des ménages, donc il y a la mobilité et il y a le chauffage au fioul qu'il faut pas oublier, il y a longtemps qu'on aurait dû encourager le basculement du chauffage au fioul vers des énergies renouvelables thermiques, donc les poêles à bois et les pompes à chaleur essentiellement. Et du côté de la mobilité, il y a longtemps qu'on aurait dû imposer aux constructeurs de vendre des modèles qui effectivement consomment de moins en moins. Donc ça veut dire en pratique qu'on achèterait des voitures qui sont de plus en plus petites, de moins en moins puissantes, mais pour aller au boulot, ça reste suffisant. Donc ce qu'on n'a pas fait depuis maintenant 10 ou 20 ans...
Il faudrait le faire à marche forcée, si je vous entends bien, Jean-Marc Jancovici.
Exactement, il faut le faire maintenant. Donc ça, c'est la responsabilité que l'État n'a pas prise. Et du côté des ménages, la responsabilité que nous n'avons pas prise, c'est quand on achète une voiture, d'acheter la plus petite possible, au lieu d'acheter la plus chère qu'on puisse se payer avec l'argent dont on dispose. Parce qu'en général, on a tous une logique budgétaire.
Message bien passé, Jean-Marc Jancovici. Voilà. Et justement, je vous propose éventuellement de rester avec nous et d'entendre la réaction d'Océane Lequeux, je disais porte-parole des Gilets jaunes à Fréjus, qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Je ne sais pas si vous avez entendu Jean-Marc Jancovici. On va y revenir dans un instant. D'abord, on l'a dit, cette mobilisation des Gilets jaunes a pris une tournure dramatique ce matin avec cette manifestante qui est morte renversée dans un mouvement de panique par une automobiliste. Quelle est votre réaction?
Alors oui, on a entendu cette tristesse ce matin à la télé. Alors moi, j'ai une énorme pensée à cette personne-là ainsi que toute sa famille. Maintenant, on espère qu'il n'y aura pas d'autres problèmes au niveau de notre mouvement.
Justement, est-ce que vous-même, vous avez donné des consignes à vos manifestants, puisque c'est vous qui avez lancé sur Facebook cet appel pour le blocage à Fréjus?
Alors oui, nous, on a donné des consignes de sécurité déjà il y a 3 semaines en avant. Maintenant, on les a répétées à chaque personne qu'on voit, on redit un maximum au niveau des péages. Et on a prévu de la sécurité, c'est-à-dire on est encadré par les policiers. On est aussi encadré par des agents de sécurité qui se sont proposés pour être là sur notre mouvement. On essaye de faire un maximum pour que tout se passe bien.
Et qu'est-ce qui a motivé au départ votre appel sur Facebook? C'est cette hausse du prix des carburants dont on parlait à l'instant justement avec Jean-Marc Jancovici?
Alors oui, ça a commencé par la hausse du prix du carburant. Ça a fait en fait c'est la goutte d'eau qui a débordé du vase. Mais nous, sur notre mouvement, voilà, on parle surtout de toutes les hausses des taxes en général. On parle des retraites, on parle du contrôle technique, on parle du gaz qui a augmenté, l'électricité, tout ça en général.
Et donc, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? On a vu effectivement des propositions avec cette prime à la conversion qui a été annoncée par le gouvernement cette semaine pour pouvoir avoir accès pour les ménages les plus modestes à des voitures moins polluantes. Est-ce que ça suffit pour vous?
Alors non, nous, ça nous suffit pas, sachant que bon, la prime de reconversion, elle est passée de 2000, elle est passée à 4000 euros. Pour des personnes qui ne touchent pas un SMIC en général, c'est-à-dire qu'en fin de mois, on n'arrive pas à placer 10 euros. Je vois pas pourquoi on arrivera à placer des sous pour acheter une voiture à 6000 euros.
Merci beaucoup, Océane Lequeux. Juste une dernière question, ça va se traduire comment, votre mobilisation à Fréjus?
Pour l'instant, on est assez nombreux. Maintenant, on avait donné le rendez-vous à 14h. Il est à peu près 13h. Donc, ça commence à arriver. Je pense qu'on va être nombreux et on va se on va essayer de se faire entendre un maximum.
Eh bien, on va continuer justement à voir comment se traduit cette mobilisation des Gilets jaunes à travers toute la France. Je vous le disais, avec ce journal de la mi-journée qui a été largement consacré à cette mobilisation, on poursuit avec une spéciale de tout terrain entre 13h et 14h. Nous serons en direct sur les principaux points de blocage à travers toute la France avec nos correspondants.